Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Il va falloir montrer patte blanche avant de se connecter à un site porno. Le gouvernement veut en effet interdire une bonne fois pour toutes l'accès des sites coquins aux mineurs. Il y a même une expérimentation qui va débuter en mars. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Anthony va essayer de nous dépatouiller le sac de nœuds des réseaux Wi-Fi maillés. Une technologie très pratique pour se connecter à l'aise n'importe où dans la maison, mais ça reste quand même assez compliqué. Nous sommes le jeudi 16 février, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Le gouvernement veut obliger les sites porno à bloquer leur accès aux mineurs, mais cela implique une vérification de l'âge de l'internaute. Pas question de transmettre une pièce d'identité à ces sites, évidemment, c'est pourquoi il faut une solution suffisamment souple et surtout sécurisée. Pas évident, mais il existe plusieurs pistes, comme par exemple passer par les fournisseurs d'accès, qui possèdent déjà ce genre d'informations. Ça peut aussi être un fournisseur d'identité numérique, par exemple. Tout ça va se mettre en place dans les prochains mois, et dès le mois de mars, un collectif d'entreprises va tester un système de vérification de l'âge. Jean-Noël Barrot, qui est le ministre délégué chargé du numérique, a annoncé la mise en place de cette expérimentation, mais c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Les régulateurs en charge du dossier, à savoir la CNIL et l'ARCOM, n'ont en effet toujours pas rendu leur avis sur cette question brûlante, et ça ne tombera pas avant plusieurs mois. Les obstacles sont encore nombreux avant de généraliser une solution efficace et transparente, et on en reparlera sûrement sur MacG. Aujourd'hui, on peut tout mettre à jour, les écouteurs, les montres connectées, les AirTags. Du coup, pourquoi pas aussi les câbles. Apple a surpris son petit monde en livrant une mise à jour du firmware pour son câble USB-C MagSafe pour les MacBook Pro. Il se met à jour simplement en le branchant au Mac. Ce fameux câble de 2 mètres de long fonctionne maintenant avec un logiciel interne qui porte le numéro de version 3.1.12, ce qui peut se vérifier dans le rapport système de votre Mac dans la rubrique alimentation. Bon certes, tout ça nous fait une belle jambe parce qu'on ignore ce qui se cache derrière cette mise à jour. Apple fait toujours un peu sa mauvaise tête quand il s'agit de décrire les nouveautés et les changements dans ses nouveaux firmwares et celui-là ne fait malheureusement pas exception. Ça ne vous a sûrement pas échappé, en ce moment, l'actualité tourne beaucoup autour de l'intelligence artificielle. Mais dans le secteur des technologies, une nouveauté chasse l'autre. On a eu droit au déferlement du métavers, des NFT ou encore des crypto-monnaies, et donc aujourd'hui c'est ChatGPT qui occupe le devant de la scène. Chez Google et chez Microsoft, c'est la grosse bagarre pour savoir qui sera le premier à intégrer des bots conversationnels qui ne racontent pas trop n'importe quoi. Microsoft a pris une longueur d'avance avec Bing, alors que chez Google, on joue la carte de la prudence avant de lancer Bard. On vous a justement demandé dans un sondage si vous pensez qu'on parlera encore de ChatGPT ou de Bard l'année prochaine, eh bien il semble que vous misez sur l'intelligence artificielle. Pour 40% d'entre vous, c'est tout simplement le futur qui est en train de se construire actuellement. Dans une même proportion, vous pensez que si l'intelligence artificielle représente bel et bien l'avenir, le résultat final ne sera pas aussi fou qu'on le promet. Et vous n'êtes que 8% à croire qu'on nous vend du rêve et que tout ça se transformera en alternative de niche. Le sondage est toujours en ligne, alors si vous voulez voter et vous exprimer sur le sujet, rendez-vous sur MacG. Avoir à disposition un bon réseau Wi-Fi, c'est devenu presque aussi important aujourd'hui que d'avoir l'eau courante ou l'électricité. On a vu aussi pendant la crise sanitaire et les confinements que posséder à la maison une connexion fiable et solide à Internet, eh bien c'était indispensable pour le télétravail. Alors pourquoi pas un réseau maillé ? Mais voilà, les systèmes mesh, c'est quand même très compliqué, c'est pourquoi Anthony vous a proposé un article complet sur la question à lire sur le club Hygiène. On va tenter d'y voir plus clair avec lui ce matin. Salut Anthony!
Salut Mickaël, salut à tous.
Dans le monde Apple, on connaît AirPort, ou plutôt on connaissait AirPort. Il s'agissait d'étendre la couverture du Wi-Fi dans la maison. Mais cette technologie a été remplacée par les réseaux maillés. C'est quoi la différence fondamentale entre ces deux approches finalement ?
Oh, 20 petites années de progrès technique, rien de grave. Apple utilisait un truc qui s'appelle le protocole WDS. C'est un protocole de distribution sans fil. Ça permettait soit d'augmenter la capacité avec ce qu'on appelle des points d'accès secondaires, soit d'étendre la portée avec des relais. Ouais. Ça marchait plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est que plus tu multipliais les relais, plus tu diminuais les débits. Et c'est finalement quelque chose qui a disparu en même temps qu'ont disparu les réseaux Wi-Fi 802.11G. Donc ça date. Les réseaux maillés ou mesh, eux, ils sont définis par une norme qui s'appelle 802.11s. Et ils sont structurés autour de nœuds. Un nœud fait office de passerelle, il y en a un qui est connecté à Internet, et puis tous les autres nœuds communiquent les uns avec les autres. Ouais. Nœud, c'est un bon mot, parce que quand on multiplie les nœuds, on tisse une espèce de grande toile avec plusieurs nœuds, et on peut transmettre des données comme ça d'un nœud à un autre. Mmh. Et puis un nœud, il peut communiquer avec plein de nœuds en même temps. Il y a deux aspects qui sont assez importants dans un réseau mesh, un truc qui s'appelle l'auto-guérison, puis un truc qui s'appelle le routage adaptatif. Mmh. C'est des mots un peu compliqués comme ça, mais en fait, c'est pas si dur. L'auto-guérison, c'est ce qui permet à un réseau de guérir tout seul quand il y a la panne d'un nœud. Mmh. Au lieu d'emprunter le chemin original, les données empruntent un autre chemin. Tant pis si c'est plus long, au moins on peut les transmettre. Ouais. Et puis le routage adaptatif, c'est ce qui permet au nœud de déterminer le meilleur chemin pour servir tel ou tel appareil, même si il se déplace parmi le réseau. Mmh. À la fin, ça fait un truc qui est quand même vachement plus robuste et vachement plus fiable que les vieux réseaux WDS.
Ouais. On peut installer chez soi des boîtiers CPL pour relayer le signal Wi-Fi ou encore des répéteurs. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais installer un réseau mesh chez moi ?
En écrivant cet article, je me suis souvenu de l'existence des boîtiers CPL, ouais. Qu'on avait presque oublié. Alors que ça reste relativement intéressant pour couvrir un emplacement qui partage la même connexion électrique, ouais. Puisque le CPL passe, courant porteur de ligne, passe par l'électricité. Typiquement, pour dupliquer son réseau dans un garage ou dans la cabane au fond du jardin, tant que l'installation électrique est à peu près aux normes, ça reste très bien.
Et ça reste bon marché.
Et c'est pas cher. Ouais. Et les nouveaux répéteurs sont relativement performants et utilisent des normes Wi-Fi relativement récentes. Ouais. Donc ça marche. Les répéteurs, ils ont à la fois l'avantage et l'inconvénient de créer un réseau supplémentaire. Mmh. C'est un avantage si on veut créer un réseau séparé, par exemple pour les invités de passage, je pense notamment aux dépendances ou aux gens qui font du Airbnb chez eux, des choses comme ça. Ouais. L'inconvénient, c'est que les débits sont deux fois plus lents puisque toutes les données doivent communiquer avec le routeur du réseau original. D'accord. Donc on fait comme ça des sauts de réseau en réseau. Mmh. C'est des solutions CPL et répéteurs à quelques problèmes très spécifiques, alors que le mesh, c'est une solution à beaucoup de problèmes très communs.
Les spécifications techniques pour les systèmes mesh ne datent pas d'hier. Alors pourquoi est-ce que ça a été si long à apparaître véritablement dans le commerce ? Et est-ce qu'on peut dire que maintenant, c'est parfaitement fiable ?
Ouais, c'est assez étonnant. La norme 802.11s, elle a été reversée dans la spécification 802.11 en 2012.
Oui.
Et les discussions avaient commencé en 2003, donc c'est pas tout jeune. Il avait fallu attendre quand même plusieurs années pour voir arriver les premiers systèmes. On a commencé, nous, les tests en 2015-2016, il me semble. Et ça fait que quelques années, voire quelques mois, qu'on a des systèmes mesh qui prennent en charge l'intégralité des standards qui permettent de former des réseaux robustes et fluides, on va dire. Mmh. Distribuer la charge entre plusieurs points d'accès, ça c'est la norme 802.11k, basculer d'un point d'accès à l'autre sans coupure, ça c'est 802.11r, ou faire communiquer les appareils entre eux pour qu'ils comprennent comment fonctionne le réseau, ça c'est 802.11v. Mm-hmm. C'est quand même des gros problèmes de vraie informatique, ça demande des algorithmes un peu pointus, des composants un peu puissants, et ça explique sans doute pourquoi. Ça a mis un peu de temps. Les routeurs d'aujourd'hui, mesh, ils ont des processeurs à 4 cœurs, ils ont autant de RAM qu'un PC d'il y a quelques années. Ouais. C'est des petits ordinateurs, quoi, mmh. Et c'est un peu compliqué quand même.
Alors, il y a plusieurs types de réseaux maillés, avec ou sans routeur, en fonction des besoins de couverture et de débit. Et on peut même mélanger les uns aux autres. Bref, pour s'y retrouver, c'est quand même très compliqué. Et il faut ajouter à ça le fait que tous les appareils Apple ne sont pas forcément au même niveau, au niveau de la prise en charge de toute cette technologie sans fil. Et c'est aussi pour ça que je vous renvoie vers l'article d'Anthony sur le club pour vous y retrouver. Pour l'utilisateur lambda qui ne veut pas passer une certification Cisco, dans quelle direction il faut aller pour trouver le système qui colle à ses besoins ?
Les fabricants, ils avaient tendance avant à distinguer clairement un routeur. Ils parlaient pas de passerelle, ils parlaient de routeur, donc ouais. ce qui se connecte à Internet. Et puis des satellites, qui en général étaient moins performants que le routeur. Mmh. Et du coup, les systèmes mesh étaient pas toujours complètement maillés. C'était un peu compliqué. C'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, on trouve des systèmes avec des nœuds qui sont très similaires, voire absolument identiques. Mmh. Et en général, les réseaux maintenant sont complètement maillés. Donc ça, c'est un problème qu'on évacue. La seule distinction maintenant, à mon avis, qui est intéressante, c'est celle entre les systèmes qui utilisent de tout petits points d'accès et les systèmes qui utilisent de gros points d'accès. Ouais. Orbi, par exemple, c'est l'archétype du système avec des gros points d'accès. Ça peut arroser des centaines de mètres carrés avec des débits assez incroyables. Mmh. Mais enfin, c'est aussi un peu cher.
Ouais.
Et puis Hero ou Nest, Hero c'est Amazon et Nest c'est Google, Eux, c'est des parfaits exemples des systèmes avec des tout petits points d'accès. Il faut en mettre beaucoup pour obtenir une couverture homogène, mais ils sont moins chers et l'avantage d'en mettre beaucoup, c'est qu'on peut les mettre là où on a envie. Ouais. Et puis on a au milieu des fabricants comme TP-Link ou comme Asus dont on parle moins, et c'est dommage parce que eux proposent les deux, et en plus ils permettent de mélanger les deux. Les systèmes un peu lourds avec des gros points d'accès, c'est assez parfait pour vraiment couvrir très rapidement des maisons, des appartements modernes, parce qu'en plus on peut s'appuyer sur le réseau Ethernet qui est dans les murs.
Ouais.
Et les systèmes plus légers avec plein de points d'accès, eux, c'est assez sympa quand on a des situations un peu compliquées avec des murs porteurs ou des recoins un peu étranges. Parce que justement, on peut installer tout un tas de petits points d'accès, mais les petits points d'accès, en général, sont moins performants. Donc chaque approche a les avantages et ses inconvénients. Ouais.
Est-ce que Apple, finalement, n'aurait pas tout intérêt à faire revenir AirPort d'entre les morts pour proposer un réseau mesh facile à installer et à configurer ?
Ouais, ce serait quand même plus simple parce que les applications des fabricants sont pas toujours très jolies et pas toujours très faciles à utiliser. Ouais. Puis surtout, la petite tendance des dernières années, c'est les fabricants qui essaient de vous vendre des services additionnels. Ils vous ont déjà fait cracher 500, 600, 700, 800 balles pour un système Wi-Fi, mais en plus, ils veulent que vous payiez 50 balles par an pour un VPN ou pour un contrôle parental. Apple a fait revenir le HomePod, on en parlait dans un sortie de veille récente. Pourquoi il ne ferait pas revenir les bornes AirPort après tout ?
Mais oui.
Je pense qu'elle aurait vraiment une carte à jouer sur la sécurité, la confidentialité, parce que ça, c'est quand même moyen avec certains systèmes mesh.
Tout à fait.
Et puis avec un peu de stockage, ça pourrait être sympa pour faire un serveur de cache pour iCloud et les mises à jour. En ce moment, il y a une mise à jour par jour, donc ce serait pas mal. et puis aussi, on pense à Item Cap pour les sauvegardes Time Machine en local, ce serait sympa. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un marché un peu trop confidentiel pour intéresser une boîte qui ne compte qu'en milliards et en billions.
Eh bien, merci d'avoir soulevé ce panier de crabes pour démêler ce sac de nœuds. On espère que ça a pu éclairer un peu votre lanterne. Salut Anthony.
Je vais aller prendre une aspirine, salut à tous.
Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.